Chapitre 40. Il est un peu souffrant, répondait Albert à tous ceux qui, au Lutetia, s'inquiétaient de n'avoir aucune nouvelle de M. Eugène. Depuis 2 jours, on ne le voyait plus, il n'appelait plus, on s'était habitué au pourboire exceptionnel aussi, d'un coup, ne plus en recevoir provoquait des déceptions. Albert refusa qu'on appelle le médecin de l'hôtel. Il vint tout de même. Albert entr'ouvrit la porte. Il va mieux, merci, il se repose. Et referma la porte. Édouard n'allait pas mieux. Il ne se reposait pas. Il vomissait tout ce qu'il avalait. Sa gorge produisait un bruit de soufflet de forge. Et sa fièvre ne tombait pas. Il mettait beaucoup de temps à redescendre. Serait-il en mesure de voyager? S'interrogeait Albert. Comment diable s'était-il procuré de l'héroïne? Albert ne savait pas si c'était une grosse quantité, il n'y connaissait rien. Et si cela ne suffisait pas, si Édouard avait besoin de nouvelles doses pendant la traversée de plusieurs jours, qu'allait-il devenir? Albert, n'ayant jamais pris le bateau, redoutait le mal de mer. S'il était dans l'impossibilité de s'occuper de son camarade, qui s'en chargerait? Lorsqu'il ne dormait pas ou ne vomissait pas à gorge déployée, le peu qu'Albert parvenait à lui faire ingurgiter, Édouard demeurait les yeux au plafond, sans bouger. Il ne se levait que pour aller aux toilettes. Albert guettait. « Ne ferme pas la porte à clé, disait-il. S'il arrive quelque chose, que je puisse venir te porter secours. » Jusque dans les toilettes, il ne savait plus où donner de la tête. Il consacra son dimanche entier à soigner son camarade. Édouard restait le plus souvent allongé, en nage, saisi de spasmes violents suivis de râles. Albert effectuait des allers-retours entre la chambre et la salle de bain avec des linges frais, commandait des laits de poule, des bouillons de viande, des jus de fruits. En fin de journée, Édouard réclama une dose d'héroïne. « Pour m'aider !» écrivit-il fébrilement. Par faiblesse, parce que l'état de son camarade l'affolait, que l'échéance du départ le paniquait, Albert accepta, mais le regretta aussitôt. Il n'avait pas la moindre idée de la manière de s'y prendre et, une fois de plus, il mettait le doigt dans un engrenage. Malgré ses gestes, rendus approximatifs par l'excitation et une immense fatigue, on voyait qu'Édouard avait l'habitude. Albert découvrait une nouvelle infidélité. Il en fut blessé. Il joua néanmoins les assistants, tint la seringue, frotta la roulette sur la mèche d'Amadou. Cela ressemblait beaucoup à leur début. La luxueuse suite du Lutetia n'avait rien à voir avec l'hôpital militaire où, 2 ans plus tôt, Édouard avait failli mourir de septicémie en attendant d'être transféré dans un hôpital parisien. Mais la proximité des deux hommes, les soins paternels que le premier administrait au second, la dépendance d'Édouard, son malheur profond, sa détresse qu'Albert avec générosité, mauvaise conscience, maladresse, tentait d'endiguer, leur rappelait à l'un comme à l'autre des souvenirs dont il était difficile de dire s'ils se révélaient réconfortants ou inquiétants. Cela ressemblait à une boucle qui se fermait au retour au point de départ. Immédiatement après l'injection, Édouard reçut une secousse, comme si quelqu'un lui avait brutalement tapé dans le dos en lui tirant la tête en arrière par les cheveux. Elle ne dura que quelques instants. Il se coucha sur le côté, son bien-être retrouvé se lisait sur ses traits et il se coula dans une torpeur bienfaisante. Albert resta les bras ballants à le regarder dormir. Il sentait son pessimisme en passe de remporter la victoire. Outre qu'il n'avait jamais cru qu'il réussirait une double escroquerie à la banque et à la souscription, ni qu'en cas de succès, ils arriveraient à quitter la France, il ne voyait plus comment il parviendrait, en charge d'un compagnon aussi mal en point, à prendre le train pour Marseille, puis le bateau pour une traversée de plusieurs jours sans se faire remarquer. Et tout ça, sans compter avec Pauline, qui lui posait toujours des problèmes redoutables, avouer, s'enfuir, la perdre. La guerre avait été une terrible épreuve de solitude, mais ce n'était rien comparé à cette période de démobilisation qui prenait des allures de descente aux enfers. À certains moments, il se sentait prêt à se constituer prisonnier pour en finir une fois pour toutes. Néanmoins, et comme il fallait bien agir, profitant qu'Édouard dormait, En fin d'après-midi, Albert descendit à la réception et confirma que M. Larivière quitterait l'hôtel le 14 à midi. « Comment ça, vous confirmez ?» demanda le concierge. L'homme, grand, au visage sévère, avait fait la guerre et avait vu passer un éclat d'obus si près qu'il en avait perdu une oreille. À quelques centimètres près, il se serait offert la même tête qu'Édouard, mais lui avait eu plus de chance. Il pouvait faire tenir sa branche droite de lunette sur le côté avec un ruban adhésif dont la couleur était joliment assortie à ses épaulettes qui masquaient la cicatrice du trou par lequel l'éclat lui était entré dans le crâne. Albert pensa à la rumeur selon laquelle des soldats continuaient de vivre avec un éclat d'obus dans le cerveau, éclat qu'on avait pu retirer, mais personne n'en avait jamais rencontré personnellement de ces blessés-là. Peut-être le concierge était-il un de ces morts debout. Si c'était le cas, ça ne l'avait pas trop diminué, il avait conservé intacte sa capacité à distinguer le grand monde du petit. Il fit une moue imperceptible. Albert, quoi qu'il dise, malgré son costume propre, ses chaussures cirées, avait des manières populaires, cela devait se reconnaître à ses gestes, à un certain accent, peut-être, ou à cette déférence qu'il ne pouvait s'empêcher de manifester devant tous les hommes qui portaient un uniforme, fût-ce celui de concierge. « Monsieur Eugène nous quitte donc », Albert confirma. Ainsi, Édouard n'avait pas prévenu de son départ. Avait-il eu jamais l'intention de partir ?« Mais si !» écrivit Édouard, interrogé à son réveil. Il traçait des lettres tremblées, mais lisibles. « Bien sûr, on part le 14. « Mais tu n'as rien de prêt !» insista Albert. « Je veux dire, pas de valise, pas de vêtements !» Édouard se frappa le front. « Oh, quel idiot je fais !» Au fil des heures, Édouard allait de mieux en mieux. Il s'alimenta de nouveau, et s'il ne tenait pas longtemps sur ses jambes, le lundi, l'amélioration de son état parut réelle, globalement rassurante. Albert, en sortant, hésita à séquestrer le matériel, l'héroïne, le reste des ampoules de morphine, mais il estima l'opération difficile. D'abord, Édouard ne le laisserait pas faire. Ensuite, il manquait de courage. Le peu de force dont il disposait, il les mettrait entièrement dans l'attente du départ, à compter les heures. Puisque Édouard n'avait rien prévu, il alla lui acheter des vêtements au bon marché. Pour être certain de ne pas commettre de faute de goût, il interrogea un vendeur, un homme d'une trentaine d'années qui le toisa des pieds à la tête. Albert voulait quelque chose de très chic. « Quel genre de chic cherchons-nous ? » Le vendeur, apparemment très intéressé par la réponse, se penchait vers Albert et le fixait dans les yeux. « Eh ben, balbutia Albert, bah, chic, c'est-à-dire, oui ?» Albert cherchait. Il n'avait jamais pensé que « chic » pouvait s'entendre autrement que par chic. Il désigna sur sa droite un mannequin habillé de pied en cap, du chapeau aux chaussures, manteau compris. Bah, « Ça, je trouve ça très chic. »« Je comprends mieux, » dit le vendeur. Il décrocha l'ensemble avec précaution, l'étendit sur le comptoir et le contempla en prenant un petit mètre de recul comme pour admirer une toile de maître. « Monsieur a très bon goût. » Il recommanda d'autres cravates, chemises. Albert joua l'hésitant, accepta tout. Puis, il regarda avec soulagement le vendeur emballer la tenue complète. « Il faudrait aussi une seconde tenue, » dit-il alors, pour sur place. « Sur place, très bien, » répéta le vendeur en achevant de ficeler les paquets. « Mais sur place, où cela ?» Albert ne voulait pas donner sa destination, hein, pas question, au contraire, il fallait ruser. Les colonies, déclara-t-il. Bien ! Le vendeur sembla soudain très intéressé. Peut-être lui aussi avait-il eu naguère des envies, des projets. Et une tenue de quel genre alors ? L'idée qu'Albert avait des colonies était faite de briques et de brocs, de cartes postales, de oui-dire, d'images dans les magazines. Quelque chose qui aille bien là-bas. Le vendeur plissa les lèvres d'un air entendu. « Je crois que nous avons ce qu'il vous faut. » Mais cette fois, pas de mannequin avec la tenue complète pour se rendre compte de ce que ça donnait. Ici la veste, tentez-moi ce tissu. Là, le pantalon, rien de plus élégant, mais aussi de plus fonctionnel, et bien sûr, le chapeau. « Vous êtes certain ?» hasarda Albert. Le vendeur était formel, le chapeau fait l'homme. Albert, qui croyait que c'était les chaussures, acheta ce qu'on lui proposa. Le vendeur sourit largement. Était-ce l'évocation des colonies, la vente de deux ensembles complets, mais il possédait quelque chose de curieusement carnassier. Albert avait vu cela chez certains responsables de la banque. Il n'aima pas du tout, faillit le dire, mais pas de scandale ici, à deux pas de l'hôtel. On partait dans moins de deux jours, inutile de commettre la faute qui ruine tous les efforts. Albert acheta aussi une malle en cuir fauve, deux valises neuves assorties, dont une servirait à transporter l'argent, un nouveau carton à chapeau pour sa tête de cheval, et il fit livrer le tout au Lutetia. Il choisit enfin une jolie boîte, très féminine, dans laquelle il mit 40 000 francs. Avant de revenir veiller sur son camarade, il passa au bureau de poste de la rue de Sèvres pour envoyer le tout à Madame Belmont, avec un petit mot précisant que cette somme était destinée à Louise, pour quand elle serait grande, qu'Édouard et lui comptaient sur elle afin de les placer au mieux en attendant que la petite soit en âge de les toucher. Lorsqu'ils furent livrés, Édouard regarda les vêtements, hocha la tête avec satisfaction, se fendit même d'un geste du pouce en l'air. « Bravo, parfait !»« C'est ça, » pensa Albert, « ils sont fous complètement. » Et il alla retrouver Pauline. Dans le taxi, il révisa son petit discours et arriva tout gonflé d'une bonne résolution, celle de lui expliquer la réalité des choses, car cette fois, plus d'échappatoire, nous étions le 12 juillet, il partirait le 14 s'il était encore vivant, c'était maintenant ou jamais. Sa décision relevait de l'incantation parce que, au fond de lui-même, il se savait incapable d'un tel aveu. Il avait réfléchi aux raisons qui l'avaient jusqu'à présent empêché de s'y résoudre, toutes revenaient à une question de morale qu'il pressentait insurmontable. Pauline était de condition modeste, pétrie de catéchisme, fille d'un manœuvre et d'une ouvrière, rien de plus sourcilleux sur la vertu et l'honnêteté que cette catégorie de pauvres. Elle lui parut plus ravissante que jamais. Albert lui avait acheté un chapeau qui révélait toute la grâce de son visage si parfaitement triangulaire, son sourire lumineux et désarmant. Sentant Albert gêné, plus silencieux ce soir-là encore qu'à l'accoutumée, toujours prêt à dire quelque chose que finalement il retenait, Pauline vivait un des instants les plus délicieux de sa relation avec lui. Elle n'en doutait pas, il voulait la demander en mariage et ne parvenait pas à se lancer. Albert n'était pas seulement timide, pensait-elle, il est aussi un peu peureux. « Adorable, vraiment gentil, mais si vous ne lui tirez pas les vers du nez, vous pouvez attendre les choses jusqu'à la Saint-Glinglin. » Pour l'heure, elle se délectait de ses tergiversations, se sentait désirée, ne regrettait pas d'avoir cédé à ses avances ni à ses propres envies. Elle jouait les distraites, mais elle était persuadée que c'était du sérieux. Depuis plusieurs jours, voir Albert se contorsionner lui procurait un plaisir qu'elle faisait mine d'ignorer. Encore ce soir-là, il dînait dans un petit restaurant de la rue du Commerce, cette manière qu'il avait eue de dire « En fait, vois-tu Pauline, je me plais pas trop à la banque, je me demande si je devrais pas essayer autre chose. » « C'est vrai, pensa-t-elle, on n'envisage pas cela quand on a 3 ou 4 enfants, c'est lorsqu'on est encore jeune homme qu'il faut entreprendre. » « Ah oui ?» répondit-elle négligemment, l'œil sur le garçon qui apportait les entrées. « Et quoi donc ?» « Ah ben, je sais pas, moi. » On aurait dit qu'il avait beaucoup pensé à la question, mais jamais à la réponse. Bah, « Je sais pas, une sorte de commerce, peut-être » risqua-t-il. Pauline devint écarlate. Un commerce. Le sommet de la réussite. Pensée. Pauline Maillard, frivolité et article de Paris. « Peu !» répondit-elle. « Bien, un commerce de quoi, d'abord ?» Ou même, sans aller si loin, « Maison Maillard, épicerie, mercerie, vin et liqueur. » « Eh ben, c'est souvent ainsi, » songea Pauline. « Albert suit son idée, mais son idée, elle, ne le suit pas. »« Bah, peut-être pas un commerce vraiment, une entreprise plutôt. » Pour Pauline, qui ne comprenait que ce qu'elle voyait, le concept d'entreprise était beaucoup moins clair. « Une entreprise de quoi ?»« J'avais pensé au bois exotique. » Pauline suspendit son geste, sa fourchette de poireaux vinaigrettes se balança à quelques centimètres de ses lèvres. « Ça sert à quoi ?» Albert passa aussitôt en rétropédalage. « Ou peut-être la vanille, ou le café, le cacao, enfin ce genre de choses. » Pauline approuva gravement ce qu'elle faisait volontiers lorsqu'elle ne comprenait pas. Mais Pauline, Maillard, vanille et cacao, ça non vraiment, elle voyait pas ce que ça pouvait donner. Ni qui ça pouvait intéresser. Albert comprit qu'il n'avait pas pris la bonne voie. « Non mais c'est juste une idée. » Ainsi, de fil en aiguille, se prenant les pieds dans ses propres raisonnements, il s'éloigna de son propos, renonça. Pauline lui échappait, il s'en voulait terriblement. Il avait envie de se lever, de partir, de s'enterrer, bon Dieu, s'enterrer. On en revenait toujours à ça.